Vous écoutez
RMC.
On n'était pas bon avec le ballon, puis on n'était pas bon sans ballon. Ça fait un peu beaucoup pour moi.
En Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs coupe-gorge, voilà, où il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut être performant à l'instant T.
Je ne veux pas dire qu'il nous manque la réussite. Il nous manque la réussite, mais il ne nous manque pas que la réussite.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h01, encore une heure d'after en direct ensemble avec Kevin Diaz, avec Thibault Leplat. On a beaucoup parlé de Vincent Labrune ces derniers jours. Alors dans l'after, le fameux deal CVC qui date maintenant, hein, a été un sujet récurrent depuis plusieurs mois. Ce matin, l'équipe a fait un dossier très documenté. Bravo à eux. Enfin, les auditeurs de l'after qui nous écoutent depuis plus d'un an, entre autres. Il y en a qui nous écoutent depuis 17 ans. Pour les plus fidèles d'entre eux, je les salue. Enfin, globalement, tout a été dit dans l'after déjà sur cette thématique CVC. On va ce soir parler de Vincent Labrune sous un autre angle, suite à son audition à l'Assemblée nationale. Il a fait partie des nombreux dirigeants du sport français auditionnés. On a aussi raconté ces derniers jours dans l'after que pour certains, ça s'était mal passé, que certains pourraient même se retrouver avec une procédure pour parjure parce que ils n'ont pas respecté leur serment de dire toute la vérité, ce qui est obligatoire quand tu te rends devant ce genre de commission. Et là, Thibaut, tu as écouté attentivement Vincent Labrune, ce qui est nouveau, ton avis du soir. Je propose donc, Kevin, d'écouter un jingle Thibault Leplat.
Et le mec s'est mis à ouvrir un garage de moto. Il a fait une philosophie de la moto. Il explique le plaisir du mec qui vient réparer sa moto. Et le moment où il lance l'accélérateur, il l'entend, il fait yeah, comme ça, il dit ça.
Voilà, la philosophie de la moto. Raconte.
Alors oui, j'ai pris le temps cet après-midi de regarder la totalité de l'audition de Vincent Labrune, 2h20 de vidéo.
2h20,
ouais. Alors, il y a une petite pause à un moment, madame le rapporteur, je crois, est partie, elle devait voter, après elle est revenue, 20 minutes de pause. Mais bref, j'ai regardé l'ensemble parce que je voulais avoir un peu le cœur net, parce que j'avais vu passer sur les réseaux une vidéo d'Arnaud Rouget, le DG, un peu s'en mêlant les pinceaux sur l'histoire de la campagne contre l'homophobie. Donc j'ai regardé l'ensemble de la commission pour voir un peu ce qu'il en était. J'avais déjà vu, il avait fait la même chose au moment de l'audition au Sénat. Et ce que j'ai vu la même chose que ce que j'ai vu au Sénat. C'est d'abord sur la forme, une espèce d'ambiance un peu de conseil de classe, avec les deux délégués. Je sais pas si tu te souviens, au lycée, t'avais les délégués qui venaient dans les
qui défendaient leurs potes.
Qui défendaient un peu leurs potes, qui pas hyper à l'aise, tu vois, pas du tout le même registre de langage, mais bon, qui respectent quand même un peu le cérémonial, qui sont un peu impressionnés. Et d'ailleurs, la première chose que fait Vincent Labrune quand il a la parole, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il sort son CV. C'est curieux, il dit. Alors moi j'ai fait ça. Il dit. Alors je sais que c'est pas.
On lui a demandé ou.
Non. Il dit. C'est en propos liminaire. C'est pas ce qu'on m'a. Je sais que c'est pas le sens de votre question, mais je vais quand même vous dire ce qui t'est arrivé. Alors il reprend tout depuis qu'il était élu, d'avoir membre du conseil d'administration de la Ligue de 2011. Puis voilà, il égrène comme ça tous les trucs qu'il a fait. Au point qu'il parle de plus en plus vite parce qu'il se rend compte que c'est beaucoup trop long. Bref, il présente son CV, ce qui est très étrange, et ensuite il répond enfin aux questions. Et donc t'as une espèce d'ambiance comme ça où t'as lui qui vend un peu à base de slogans plus ou moins bien choisis des directives qu'il aurait données, et à côté Arnaud Rouget qui s'occupe un peu de l'intendance, quoi. Donc il est là avec ses fichiers, qui est là, il dit je vous enverrai des fiches, je vous enverrai des dossiers sur chaque question. Vincent Labrune esquisse une sorte de mou un peu dubitative, et Arnaud Rouget prend la parole et déroule. Alors voilà, on a fait telle campagne. Donc ça donne une sensation très étrange d'un président de la Ligue qui est finalement assez peu concerné par la gestion quotidienne de la Ligue. C'est d'ailleurs, ça a été le sentiment de certains députés. C'est dit que, lui, il s'occupe de l'argent et il s'occupe de donner des directives. Et au point même qu'il emploie souvent, et c'est pour ça que je vais me permettre de répondre, il parle souvent de la philosophie, de philosophiquement, la Ligue devrait faire, je ne sais quoi. Philosophiquement, il a employé sans arrêt ce terme de philosophie. Alors, je me suis permis quand même de prendre la parole ce soir pour rappeler que la philosophie, c'était pas ça. La philosophie, c'est pas des slogans. La philosophie, c'est pas avoir une idée et puis après ne rien dire. Non, la philosophie, c'est logique, c'est une stratégie, c'est une vision, c'est des principes. C'est quelque chose de finalement assez tangible, ce qu'on n'a pas vu là. Et là, je viens au fond de ce qu'on a vu là, ce que j'ai vu pendant l'intervention. Ben, j'ai vu des dirigeants qui finalement, et c'est un peu la vertu de ce type de commission-là, c'est la transparence. On voit comment ça se passe. Alors c'est très bien pour nous, c'est très bien pour nous au sens où c'est transparent. Le problème, c'est ce qu'on voit, ben, c'est ce qu'on imaginait que c'était. c'est-à-dire des gens qui ne me pensent pas, qui sont sans arrêt en train de mettre des pansements sur des jambes de bois. Sur l'affaire de l'homophobie, parce que c'est la question première qui a été reprise dans la presse, l'obsession de la Ligue, c'est pas alors c'est un peu l'éducation, mais c'est surtout le bad buzz. C'est ce mot qui revient sans arrêt. Alors ils disent qu'ils brainstorment en ce moment. Donc tu te dis, mais on est où là? Ils brainstorment, ils emploient un vocabulaire qui est absolument pas le vocabulaire d'un cadre institutionnel comme celui-là. Ils parlent de cinglé, les phrases sont mal construites. Enfin, moi, la sensation que j'ai eue, je vous le dis sincèrement, ça m'a choqué, c'est de me dire, mais en fait, notre football, on a absolument aucune vision. Parce que quand tu écoutes des gens comme que ce soit Javier Tebas, que ce soit David Dean, que ce soit Scudamore en Angleterre.
Qui étaient les patrons de la première ligue.
Voilà. Là, t'entends des types qui sont des chefs d'entreprise. Mais même Maxime Sada, quand il va, il va pas avec son assistant, il va pas. Non, il connaît les dossiers. Il parle de ses dossiers. Il a dit des choses. Il y a eu plusieurs choses et des erreurs dans la présentation. Vincent Labrine dit que. Alors il s'est fait l'éloge, il dit qu'il est arrivé dans une situation terrible, la fin de Mediapro, etc., que Mediapro a pas voulu renégocier, ce qui est faux. Mediapro a voulu renégocier. Il y a eu plein de choses comme ça, plein d'imperfections, plein d'approximations.
C'est amateur, quoi.
Qui donne une idée d'un certain, je sais pas, je veux pas dire amateurisme, mais de gens qui, à mon sens, pour qui le costume est un peu grand. Et c'est la sensation que ça donne. Et je crois, alors heureusement, les députés sont pas forcément plus au courant de la situation. Mais toi, quand tu connais ce qui se passe, quand tu vois ce qui se passe, et quand tu vois le spectacle qui est donné là, d'un président qui parle finalement assez peu, d'un directeur général qui est obsédé parce que c'est son métier, par tous les trucs concrets, donc la gestion, les fiches de paie, etc. Mais à aucun moment on a parlé du football français, de la vision à 10 ans. Le problème de la modération de la haine, par exemple, parce que la question de l'homophobie, la question du racisme, on a parlé des tribunes, mais on parle des tribunes avec des recettes des années 70. Donc est-ce qu'il faut fermer les tribunes, pas fermer les tribunes, est-ce qu'il faut la police, pas la police? Tout ça se passe dans la rue, dans les réseaux sociaux. Et à la fin, et je terminerai là-dessus, ce qui finalement moi me choque le plus, c'est cette ambiance de fatalisme face au problème de violence, face au problème d'homophobie, et toujours ce petit refrain qui revient dès qu'on lui dit ah mais oui, mais vous avez tenté telle stratégie, ça a pas fonctionné, ou ça a moins bien fonctionné, il dit ben oui, mais c'est à l'image de la société. Alors moi, quand j'entends ça, la violence, ben oui, la violence est dans la société, l'homophobie elle est dans la société, oui, ben la mort aussi elle est dans la société, la maladie elle est dans la société, tout. Et c'est pas parce que c'est dans la société que ça va être dans le football, c'est pas une excuse, ça. C'est pas une explication à ce qui s'est passé. Et quand on en arrive à des situations comme ça, c'est-à-dire de la pensée magique, en s'imaginant que, parce qu'on va dire, ah ben c'est à l'image de la société, ben en fait, ça peut pas être la conclusion d'une discussion. Ça, c'est le point de départ. Et que le fatalisme qui règne à la Ligue sur tous ces problèmes sociétaux, on voit la manière dont c'est géré. J'en ai parlé l'autre soir sur l'impasse de la question de la campagne sur l'homophobie. Moi, évidemment, j'appuie ce type de campagne-là. Mais ce que je trouve absolument aberrant, c'est qu'à aucun moment on pense, à aucun moment on pense véritablement au-delà de quelques slogans, le milliard, ou moi j'en peux plus, il dit dans ces termes-là, moi vous savez j'en peux plus moi de l'homophobie, mais Vincent Labrune, que moi non plus j'en peux plus, mais c'est pas un problème personnel là.
Ouais. Non mais
il faut avoir une vision. Il faut parler objectivement. Il y a des campagnes. Il faut voir ce qui se fait ailleurs.
Et te dire, je veux savoir si.
Et voilà. Et donc juste, je termine sur l'homophobie. Il y a un exemple. J'en ai parlé l'autre soir. Je vais en reparler ce soir. Qu'est-ce qu'ils font les Espagnols? Au lieu de dire oui, ça, vous savez, ça me tient à cœur. Ok, on a compris. Ils modèrent. Ils utilisent des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Ils monitorent. Ils essaient de mesurer combien c'est. Est-ce que ça progresse? Ça progresse pas? Avoir des données objectives. Là, on est dans une espèce de pensée magique d'usine à gaz avec on invente des commissions, des référents, je ne sais quoi, mais à aucun moment on sait de quoi on parle.
C'est ce que j'allais te dire. C'est ce qui se passe un peu d'ailleurs dans d'autres domaines, notamment dans les médias ou en politique. C'est malheureusement la gangrène du commentaire. C'est-à-dire que même les gens qui sont en place.
Exactement. C'est la sensation que j'ai eue.
Voilà.
J'ai eu l'impression que c'était quelqu'un
qui était un consultant.
Un consultant.
Voilà. Et c'est le problème. Nous, on est dans le commentaire, c'est notre métier. Et heureusement, et malheureusement pour eux, je vais en dire, heureusement et malheureusement, il y a très peu de gens qui regardent cette, cette,
mais moi, il y a eu 150 visionnages, hein.
Voilà, 150 visionnages. Donc, heureusement que Thibaut Leplat et que l'After Foot, c'est pour ça que c'est la première émission de foot en
donc,
France.
Donc, ce qui est sorti dans la presse, c'est les 10 premières minutes, hein.
Voilà, mais c'est ce que je te dis. Ouais. Heureusement qu'il existe l'After Foot, qui est pour moi l'émission de référence pour ça. Parce qu'on va parler du 4-3-3, on va parler du 3-5-2, on va parler aussi, du football liquide ou, du prime de tel ou tel joueur, mais on sait, on peut aussi avoir quelqu'un qui regarde cette, pour nous en parler. Et ça, c'est très important. Mais en fait, cette commission, elle devrait être vue par un minimum tous les dirigeants du football français. Je suis sûr que la moitié, ils ne l'ont pas vue. Elle devrait être vue par tous les gars qui suivent au quotidien, les vrais, enfin les vrais, les journalistes qui suivent le football devraient voir cette commission. Et heureusement, tu nous en parles. C'est très intéressant. Moi, je ne l'ai pas vue.
Mais c'est la sensation que j'ai eue, c'est exactement ce que je l'ai pas dit là, mais c'est exactement
la sensation.
J'ai eu l'impression que quelqu'un qui n'était pas concerné, qui commentait.
Exactement.
Alors plutôt un bon consultant. Genre pourquoi pas, il a des commentaires. Non,
mais
pourquoi
ça,
pas.
Mais ça, c'est le problème. Mais c'est pareil dans le pas dans tout le foot français, parce que dire le foot français, c'est toujours... Mais il y a quand même beaucoup de strates du football français où les commentaires, c'est facile. Et c'est, moi, quand je... c'est pour ça que moi, j'aime bien être dans un club, même si c'est un club amateur. C'est parce que commenter, c'est facile. Mais agir et trouver les solutions, c'est ça le vrai métier.
Le problème, c'est quand c'est censé être ton travail.
Et le problème, c'est quand c'est censé être ton travail, donc t'es à la Ligue ou t'es un entraîneur, et que tu ne fais... On reprochait ça un petit peu à Galtier, d'être dans le commentaire, de très bien traduire les problèmes de son équipe, mais après, faut les résoudre. Bon, je dis pas que c'est pas un bon entraîneur, vu ce qu'il a fait auparavant. Mais en tout cas, si on a un président de la Ligue qui est capable de commenter, qui est capable de dire, comme tu dis, oui, bon, c'est la société. Mais ça, nous, on peut le dire que c'est la société. On le dit d'ailleurs. C'est la société. Mais son travail à lui, c'est de trouver des solutions. C'est de trouver...
Et d'avoir le fatalisme comme
c'est
ça.
C'est d'avoir une vision pour la Ligue. C'est d'avoir une vision pour ce sport. Et bien sûr...
Et tout le monde qui se défend entre eux.
Et là, je mets entre parenthèses Vincent Labrune. Mais moi, ce que j'ai connu comme joueur, que ce soit au vu d'un entraîneur et au vu même aux Pays-Bas de certains dirigeants, et en politique, je trouve que c'est pareil. Moi, j'ai la sensation que quand tu es un employé, quand tu es un joueur, tu as toujours l'impression que l'entraîneur ou ceux qui sont au-dessus ont les réponses, puisque c'est leur métier. C'est leur métier. Et souvent, tu te rends compte au quotidien que la personne qui est en capacité de prendre les décisions, des fois, ne sait pas. Et c'est là où est le problème.
Ne pas savoir, c'est pas grave. Mais ne même pas voir le diagnostic. Le problème, c'est que le diagnostic n'est pas bon.
C'est ce que je te dis.
C'est difficile de voir.
Les gars
déjà.
Ne savent pas c'est quoi le problème.
Ils n'arrivent pas à voir, ils ne comprennent même pas le problème. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont dépassés. Ils ne comprennent pas. Et c'est, finalement, c'est qui? C'est la faute de l'État, ou la faute de la société, ou la faute du Covid, ou la faute. Tu
vois, j'aimerais, les gars, quand même, vous donner un peu d'infos factuelles en plus de tout ce qu'on dit là. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu une Assemblée Générale, en plus.
L'Assemblée Générale en visio.
Alors pourquoi il y a eu une Assemblée Générale? C'est une initiative qui a été soufflée à Vincent Labrune par les avocats de la Ligue suite au recours judiciaire intenté par Jean-Michel Roussier, le président du Havre, qui veut contester la répartition de l'argent de CVC. Alors, on l'a raconté dans l'After avec Christophe Boucher qui est venu l'autre jour à l'occasion de la sortie de son livre. Vincent Labrune, lui-même, en indemnité pour avoir ramené CVC en bonus, a touché plus d'argent que le Havre. Ce qui peut paraître complètement fou, mais c'est comme ça.
Donc
Jean-Michel Roussier, patron du Havre, il va te dire qu'est-ce que ce scandale, je lève le doigt, on arrête, c'est quoi ces conneries? Bon. Là, on a coupé l'herbe sous le pied de Roussier avec une nouvelle Assemblée Générale. Et là, tous les autres présidents, ils ont laissé tomber le Havre, comme une vieille chaussette.
Certains juste ont parlé. Et ceux qui ont parlé, c'est pas n'importe qui. C'est Ferry, le premier, qui est le financier, etc., qui a fait un espèce de truc, voilà. Et l'autre, c'était Nicolas, qui est le pote, le frère de Vincent Labrune, et le dernier, c'était le président.
Donc on lui en a parlé. Je vais venir.
Il a envoyé les types sur lesquels, évidemment, le pauvre Roussier, il a Ougourlian, Ferry, qui sont des deux financiers.
Donc en fait, il y a une procédure en référé initiée par le Havre la semaine prochaine. Et là, la Ligue a tenté de couper l'herbe sous le pied du Havre avec cette Assemblée Générale en faisant valider officiellement à tout le monde le deal. Et là-dessus, Roussier s'est retrouvé très isolé. Donc, Ougourlian a pris la parole, qui est quand même un poids lourd de la finance française, président de Lens, peu bavard, il était dans l'After avec nous, le podcast est toujours dispo, c'était passionnant. Il a souligné un deal, il a dit que ce deal était exceptionnel, que ça a sauvé le football français.
Donc, pour moi, c'est incompréhensible.
Voilà, ce qui m'étonne moi aussi de la part de Joseph Ougourlian. Loïc Ferry, pareil. Olas également a défendu le travail de la Ligue. Donc Olas est toujours là. Hein. Il n'est plus rien à Lyon, mais il est toujours là. et les autres présidents donc, étaient sur la même longueur d'onde. Donc tout ça a été
tranquillement.
C'est une mise en scène qui permet ensuite, sur la procédure en référé, de pouvoir mettre en scène précisément l'unité des présidents autour de cette décision-là, décision qui n'est pas unanime.
Donc, l'avocat de la Ligue va arriver au référent, il va me regarder.
Regardez, voilà. Et Roussier avait demandé à ce que c'était. D'ailleurs, je renvoie au papier de l'équipe d'aujourd'hui qui est très bien. Roussier avait demandé que ce soit une réunion en présentiel et pour cause, présentiel. Parce que quand tu remets en question la gestion du président, t'as intérêt à avoir les mecs en face de toi. Eh ben, ça n'a pas été possible, dis donc. Donc, on l'a fait en visio. Et là, en visio, on a tous fait des visios. Bon, quand il faut délibérer, c'est quand même pas l'endroit idéal. Donc, ce que tu fais, t'appuies sur oui, et puis voilà, après t'es tranquille. Et ben, c'est ce qui s'est passé.
Allez, top mytho, comme promis, jingle.
Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin.
Tu connais Jay-Z? Bien sûr, frère, je connais Jay-Z.
Cristiano, parce que bon, déjà, il était, pour la petite anecdote, il était content de me croiser.
Ah, c'est le générique du top mytho, vous avez reconnu quelques stars. Je rappelle quand même que pour l'instant, en tête du top mytho, on a Florent Gautreau qui nous a quand même dit ça.
J'avais Edmonton, 2001, champion du monde d'Edmonton. Il y avait un truc des journalistes, ils ont fait 800 mètres sur la piste. Mmh. Donc moi, c'est pas ma spécialité, je suis sprinter.
Hein. Ouais.
Ah, t'es sprinter. 100 mètres, j'ai du mal à y croire.
11 secondes 3.
Ah oui. Ah oui, c'est costaud.
Pas maintenant. Hein. Ouais. Maintenant, c'est 12 secondes 4.
Voilà, 11 secondes trop, 100 mètres. Merci. Top mytho numéro 1, Florent Gautreau.
Mais il était sérieux ou pas?
Mais donc, il était sérieux. C'est le principe du top mytho.
C'est le mytho. C'est le
moi, je pense que c'est possible.
Le numéro 2, mytho, numéro 2 au top mytho, Jérôme Bretagne. Bon, on écoute.
On l'a pas.
On l'a pas. Bah, ça, c'est bien. Ça, c'est... bon, Jérôme Bretagne qui nous a annoncé qu'il avait eu 18 en allemand au bac.
Ah oui, c'était le.
On l'a.
J'ai eu 18 au bac à l'oral.
Mais que c'est 18 à l'oral au bac, toi?
Bah, attends, je vais te ramener ma
ça, je suis curieux de voir ça, tiens.
Mais j'ai eu 18
en allemand. Toi, t'as 18 au bac en allemand, mais je te paye une semaine de resto.
J'ai eu 18 au bac à l'oral, si je vous le dis.
Fais-moi une phrase, genre, le PSG a bien joué ce soir.
Ah, vas-y. Bah, ça va, mais attends, je parle pas couramment allemand.
Voilà, on n'a jamais vu le relevé de notes, hein, je crois.
Ça n'a aucun sens.
Et là, on a Thibaut, une petite entrée au top mytho.
Ah ouais? Ah, je suis content.
C'est Kevin Diaz.
Mais en plus, c'est pas un mytho.
Kevin Diaz, il nous a quand même sorti un truc, et c'était il y a deux jours, là, dans l'after. Un petit mytho, en passant, comme ça, on écoute.
C'était sixième, je jouais avec les troisièmes, faut dire.
Est-ce qu'il disait non, il y a que les troisièmes qui jouent, ou les sixièmes, même s'ils sont très très bons?
Il prenait que les très très bons. Par contre, en cinquième, je jouais moi contre toute ma classe. Et des fois, je perdais. J'aimais le challenge. Pierre et Marie Curie à Villiers-sur-Marne.
Voilà, alors le collège Pierre et Marie Curie à Villiers-sur-Marne, qu'ils appellent le 32-16.
Oh, le mytho de l'espace.
Là, Kevin Diaz seul contre toute sa classe.
J'ai pas dit que.
Top mytho.
Mais non, mais seul contre. Dans une classe, je t'explique. Dans une classe, il y a quoi? Il y a 28 élèves. Il y a 14 garçons. OK? Il y en a deux qui jouaient pas au foot, par exemple. Donc j'étais 1 contre 10. J'ai pas dit que je gagnais. J'ai dit que pour avoir du challenge, je jouais moins contre
10. Je te rassure, le jury du top mytho, t'as pas mis numéro 1. Ouais, le numéro 1 reste Florent Gautreau.
C'est surtout que c'est vrai en plus. Hein, j'ai pas dit que je gagnais.
Principe du mytho. Pour l'instant, t'es numéro 3.
Le principe du mytho, c'est que
je suis sûr que vous l'avez déjà tous fait.
Mais le classement peut bouger. Le classement peut bouger.
Je suis sûr que vous l'avez déjà tous fait. C'est-à-dire que une fois que j'ai le ballon dans les pieds, il faut venir me le prendre.
Bah, on a toujours eu dans les cours d'école celui qui se l'a raconté un peu, qui voulait jouer tout seul, qui était perso. Bah
voilà.
Ouais, mais il a joué deux fois, il s'est pris deux tacles et puis c'était fini.
Le tac sur le béton, c'était dur.
Ah bah oui, bah c'était ça. C'était les années 80, cher ami.
Bon, top mytho qui va nous amener maintenant à parler du football des nations. On revient dans quelques instants dans la salle.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h22, la fleur est là jusqu'à minuit, l'actu du jour. Tout à l'heure, on va notamment vous raconter ce qui se passe en équipe de France U17 avec une possibilité, pourquoi pas, de disqualification de notre équipe de France qui est en demi-finale du Mondial. Mais pour l'instant, on va parler du football des nations, des grands, hein, des seniors, avec Kevin Diaz, avec Thibault Leplat. Et puis ce soir, on a avec nous deux confrères algériens. Vous savez que l'after était en Algérie début septembre pour une émission exceptionnelle, première étape de notre tournée internationale qui va bientôt rebondir ailleurs. Vous allez avoir des surprises dans quelques semaines. Suite à notre venue, des partenariats se sont mis en place et on est ravis d'avoir avec nous dans l'after ce soir deux de nos confrères que je vais laisser se présenter. Bonsoir.
Bonsoir Gilbert, merci pour l'invitation. Bah, écoute, très ravi d'échanger avec vous.
Faut que tu nous dises ton nom, où est-ce que tu travailles?
Sofiane Belkbir, journaliste à la chaîne télé El Hayat, présentateur d'émissions et surtout je suis l'équipe nationale algérienne.
Parfait pour le débat qui arrive.
Parfait, oui. On sort de deux matchs très disputés dans la course pour se qualifier en Coupe du Monde.
Du coup, c'est vous qui vous embrouillez avec Belmadi tout le
temps? Non, c'est pas moi.
Alors, t'es pas tout seul?
Oui.
Bon, moi, c'est Mohamed Amin Azouz. journaliste au journal El Mujahid, quotidien national étatique. 30 ans de carrière.
Dans le foot aussi.
Plus. Dans le foot. On touche un peu aux autres disciplines quand même. Un peu le cyclisme, les rallyes, etc. De temps en temps, même les sports de combat, les autres disciplines.
Et oui, voilà, c'est un problème d'être là, Gilbert.
Oui.
Moi, je suis, moi, je suis pro personne. Je suis pro. Je dis quand il faut critiquer, on critique. Et quand il faut dire des choses bien, on les dit en toute liberté.
Alors,
c'est-à-dire on reste. Bon, j'aime bien Belmadi. Il a ses qualités, ses défauts, comme tout le monde et comme nous tous. Mais l'acharnement contre un entraîneur, c'est pas trop mon truc.
Les gars, c'est intéressant que vous soyez là parce qu'on voulait conclure cette période là de trêve internationale par justement l'intérêt du football des nations. Il y a un grand débat en France et c'est intéressant parce qu'en Afrique, ce débat est très différent. Il y a un grand débat sur l'intérêt des matchs internationaux. En gros, la majorité aujourd'hui des observateurs du foot et des auditeurs de l'After, je pense, disent, en gros, pendant la trêve internationale, on s'emmerde. Parce que les matchs sont rares. Ouais, bon, c'est vrai que France-Gibraltar, faut reconnaître que c'était pas extraordinaire, évidemment. On s'emmerde, le niveau il est bof, il y a pas de suspense. Ce que j'entends, hein, parce que en partie vrai. Et puis il y en a qui aiment bien. Moi j'en fais partie. Moi j'adore le foot. Bah là, en fait, j'essaye un peu de théoriser tout ça. Et je pense qu'en fait, aimer le football des nations, d'un point de vue français, là je parle, ouais. Hein, les gars. Après vous nous donnerez-vous votre avis de journaliste algérien. Aimer le foot des nations, c'est en fait, c'est aussi aimer la géographie, c'est aimer la géopolitique, parce que le foot des nations, c'est pas que du 4-4-2 en vérité. Voilà. Alors nous, on voit plus que le foot comme ça, c'est-à-dire qu'on voit le foot, on voit plus que le terrain, là, on voit pas ce qui se passe autour, on voit pas les rivalités, on voit pas les tensions éventuelles. Et alors c'est marrant que vous soyez là tous les deux, parce qu'en fait, l'Afrique est totalement révélateur de tout ça. C'est-à-dire que il y a bientôt la CAN. Quand on analyse le foot africain, tu es obligé d'analyser ça sous le prisme des relations entre les pays. Ça ne peut marcher que comme ça. Voilà, c'est pas possible. Alors moi, il se trouve que je raconte rapidement ce que j'ai fait ces derniers jours. J'étais au Libéria. Parce que je devais normalement voir Georges Weah, que finalement j'ai pas vu parce que le pauvre a perdu l'élection présidentielle. Voilà.
J'ai vu le portrait de Georges Weah.
Voilà, j'ai vu des matchs là-bas, plusieurs matchs. Alors c'est les petits, le Libéria, c'est un nain niveau de l'Afrique, hein, footballistiquement parlant. Enfin c'est toujours intéressant parce que tu vois des joueurs qui jouent dans des, tu discutes avec eux qui viennent de championnats un peu alternatifs, la galère que c'est pour venir, ce que ça représente quand même pour eux d'être là malgré tout.
C'est un patriotisme aussi.
Ben ouais, voilà.
Le football des nations en général. C'est un patriotisme.
Voilà, en fait, c'est des histoires extraordinaires, le football des nations. Et le football des nations, il ne faut pas juste le voir sur l'angle, bah, le niveau, telle équipe est nulle, telle équipe est bonne, le déséquilibre. Non, c'est
une histoire,
ouverture, voilà. En fait. C'est une ouverture différente. Enfin, moi, je le vois comme
moi,
ça.
Moi, je l'entends. Tu vois, par exemple, le football des nations, donc moi, je suis franco-portugais, même si j'ai que la nationalité française, mais ma mère est au Portugal et vit là-bas. Au Portugal, il y a un tel patriotisme autour de la sélection, Cristiano, tout ça. C'est presque... Bon, le football, d'ailleurs, au Portugal, c'est considéré... Vulgairement, on dit ça comme une religion, mais c'est aussi le pays qui joue. Et c'est un peu comme ça en Afrique. Quand la sélection joue, c'est le pays qui joue. On a un peu moins ça en France, faut le dire, sur ce truc-là d'avoir vraiment.
On mange du caviar depuis des années.
Exactement. On est tellement habitué à gagner, à se qualifier pour toutes les compétitions. C'est clair que quand t'as fait deux ou trois barrages comme le Portugal ou l'Italie, tu regardes les matchs peut-être avec un autre suspense. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, dans un football qui est globalisé, où les matchs, notamment même de championnat, sont un peu ennuyants, en tout cas dans certains pays comme la France. Mais aujourd'hui, en gros, t'as quoi dans le football européen, dans le football mondial, vraiment, t'as la Première Ligue et t'as les compétitions internationales comme la Ligue des Champions au quotidien. Mais en France et ailleurs, en Europe, on suit encore quand même très régulièrement la Coupe du Monde et l'Euro. Et c'est pour ça que moi, et après je vous laisse la parole messieurs, mais moi, ce que je voudrais, ce serait condenser les périodes internationales, mais ne pas les mettre comme ça au milieu de la Ligue des Champions. Le mec, il doit aller en Amérique du Sud, il doit aller en Asie, il revient en Europe, oui, il joue au Brésil, il doit aller faire un truc peut-être sur le continent
africain. Pénible.
Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué à suivre pour les suiveurs, c'est compliqué à suivre pour les joueurs qui ont... Donc, moi, ce que je dirais, c'est ce que j'avais déjà dit dans l'After, il faut qu'il y ait 3 semaines au mois de mai, tous les ans, soit, enfin mai-juin, soit t'as 3 semaines avec ta sélection pour te qualifier pour une compétition, ou soit t'as 3 semaines pour faire ta compétition. Ça peut être également une dizaine de jours en hiver.
Vision occidentale de l'histoire.
Non, ou ça peut être 10 jours en hiver.
Je ne pense pas, par exemple, qu'en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, on a envie de ça.
Mais je peux donner un avis contraire par rapport à ce que tu proposes. Si tu permets que je te tutoie. Parce que si on fait ça pendant une période, c'est-à-dire après la phase finale n'a plus aucun sens.
Un an tu qualifies,
un an plus tard tu reviens pour la compétition. Ouais. En fait.
Non, je te dis, si tu bloques une période,
généralement c'est des nations, c'est 3 semaines, c'est presque un mois, mais si tu bloques tout ça, déjà l'esprit de club, ça reste exceptionnel quand une équipe nationale joue, je pense.
Oui, mais justement, donc, si t'as qu'un mois dans l'année, c'est exceptionnel.
Hein?
Si t'as qu'un mois dans l'année, c'est exceptionnel. Oui. C'est un peu ce qui se passe au rugby. Au rugby, ils ont 2 périodes. Ils ont la tournée d'automne et ensuite ils ont le tournoi de destination, en gros.
Il y a beaucoup moins de sélections.
Peut-être beaucoup moins de sélections, mais peu importe.
Volume, mais.
Kevin, ton avis, parce que j'ai une question précise à poser à Sofiane et Mohamed, vas-y. Oui.
Kevin, c'est.
Pardon, Thibaut.
C'est mon collègue.
Ah, on me dit pub d'abord. Non, pas la pub d'abord. Je veux d'abord l'avis de.
D'accord, merci. Non, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, effectivement, et on peut pas se mentir, c'est vrai que France-Gibraltar, c'est pas passionnant. Grèce-France, c'était pas passionnant non plus d'un point de vue football. Mais c'est vrai qu'on vit une époque, en fait, où on est bercé par le football de club. Et qu'est-ce que c'est que le football de club? C'est le football de clocher. C'est le football de un tel contre un tel. C'est le football de telle ville contre telle ville. Le football de tel groupe contre tel autre groupe. C'est le football fragmenté, le football du football de club. On le voit bien, la Ligue 1, on voit bien les conflits que ça génère. C'est un football qui sépare, en quelque sorte. Et, or, le football de nation, il a quelque chose qui revient, je crois que c'est vraiment le point commun, qui raccroche à l'enfance et au collectif. C'est l'un des derniers grands rendez-vous, je parle surtout en France pour nous, c'est l'un des derniers grands rendez-vous collectifs. On n'a plus, à l'époque, il y avait les grands partis communistes, il y a eu l'idée de nation, il y avait le gaullisme, il y avait des espèces de grands récits nationaux comme ça qui existaient, et il n'y en a plus du tout en France, on voit bien, c'est extrêmement individualiste. Et le seul moment en France même où on entend encore la Marseillaise, où on voit encore des drapeaux français, c'est au moment de l'équipe de France. Et s'il y a quelque chose de rassembleur, et que, effectivement, quand tu vois les matchs de l'équipe de France, le stade, lorsqu'il y a l'équipe de France, ben, c'est les petits clubs qui viennent, c'est les gamins. Moi, ma première expérience, c'est c'était France-Suède et France-Bulgarie, donc c'était pas une grande réussite, mais c'était avec mon club. Et quand je vais à Nice, quand je vais voir les matchs de l'équipe de France, c'est des gamins de l'arrière-pays, il y a une espèce d'ambiance où, effectivement, il y a un truc collectif. Alors, c'est un peu folklorique, c'est un peu désuet. C'est pas Instagrammable, c'est vrai. Mmh. C'est plus difficilement Instagrammable. Tu vas pas mettre des S1, tu vas pas. Mais malgré tout, il y a une idée collective qui me semble est précieuse.
Ça, c'est vue de France.
Voilà, vue de France.
Maintenant, il y a un truc intéressant en Afrique, c'est que la sélection. Sofiane, tu me dis si j'ai raison.
Oui.
Ça passe avant les clubs.
Ça passe avant le club. Oui, pour certains joueurs algériens. D'ailleurs, ça fait plaisir à 20 ans, les Benacer, les. Dernièrement Guiri qui choisissent l'Algérie pour l'amour du drapeau, c'est certainement. Ils ont une chance pour jouer dans une équipe étrangère et.
Il a hésité quand même. Hein.
Comment?
Il a hésité un peu Guiri.
Non mais attends, moi je voulais même pas te parler de ça. Dans l'esprit des gens.
Oui.
Quand l'équipe d'Algérie, parce que là vous êtes algérien, mais vous pourriez être malien, sud-africain, je sais pas. L'actualité de la sélection nationale. C'est crucial.
Oui, c'est ça.
En Algérie, vous avez des gros clubs, mais ça passera avant.
Ça passe avant toujours, oui, bien sûr. L'engouement qui est autour de l'équipe nationale algérienne, c'est spécial. Dernièrement, le match à Nelson Mandela, c'était à guichet fermé.
Ouais, le stade à Alger.
C'était un match.
Ouais, contre une petite équipe.
Tout simple, contre, je crois, l'avant-dernier au classement FIFA. La Somalie, avec tout le respect qu'on leur doit.
Mm.
Parce que même les petits, ils ont aussi le droit de prendre part au.
Algérie-Somalie, le stade est plein, les gens sont là à bloc.
Oui,
ça rassemble, voilà.
C'est ce que je disais chez nous.
Nous, la sélection, des fois, c'est vrai qu'on va un peu dans l'exagération. On devrait être un peu plus modéré, mais je pense que pour nous, la sélection nationale, c'est sacré. Comme a dit notre confrère, c'est l'hymne national, c'est l'union, il y a beaucoup de valeurs qu'on retrouve quand la sélection nationale joue. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas tomber dans l'excès ? parce que quand on tombe dans l'excès, ça peut devenir l'effet boomerang, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire au lieu que ça aille vers
le chauvinisme,
vers le rapprochement des peuples, on se connaît, on apprend à se connaître, on découvre des pays qu'on connaît pas, etc., des peuples qu'on connaît pas, ça devient de la violence. Et le sport et la violence, je pense pas que ça soit un couple, voilà.
Allez, c'est maintenant qu'on fait la pub. Et ensuite, on continue le débat ensemble au 32-16. Si vous voulez participer à ce que le foot des nations vous régale ou alors vous ennuie au plus haut point, appelez-nous pour nous donner votre avis. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h37, on continue nos débats avec Kevin Diaz, avec Thibault Leplat, avec Sofiane Mohamed, nos confrères algériens qui sont là avec nous sur le football des nations. Et on a quelques réactions. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai effectivement pas mal de réactions sur le, notamment sur Direct Studio d'auditeurs là. Supporters de clubs d'équipes africaines, voilà, je vais faire un lapsus, qui effectivement disent bah ouais, moi par exemple je suis ivoirien, bah c'est sûr que chez nous le championnat est pas extraordinaire, donc on se tourne vers la sélection nationale qui passe avant dans nos esprits
avec les stars qui jouent à l'étranger.
Mais par contre, il y a que le Moulda d'Alger qui peut faire un engouement
à la hauteur de l'équipe nationale.
À l'auteur, oui. Surtout cette saison avec ce qui fait Benaili,
il parle en termes d'influence dans
l'influence et de présence du supporter.
Mais je pense que j'arrive pas à savoir le Mouloudia, mais le Mouloudia reste un grand club et il y a pas lieu de comparer entre ça et ça. Chaque chose a sa place, je pense.
Je parlais de géopolitique et de géographie. Je vous donne un exemple très concret sur le Libéria. En fait, le Libéria, par exemple, c'est pas une information qui va vous bouleverser, mais enfin, va intégrer l'UNESCO. Ce qui est un événement pour un pays. Voilà, moi,
par exemple, le siège est à Paris.
Moi, j'apprends ça par le football, par exemple. Parce qu'on va pas suivre l'actualité comme ça, tout à coup, du Libéria ou de petits pays. Bon, ben voilà. Enfin, faut le voir comme une ouverture.
Tout à fait.
En fait, ce football des nations. Encore faut-il avoir la curiosité. Je comprends le fan de foot basique qui, lui, ne juge que par le geste technique, le 4-4-2, le machin. Il voit pas tout ça. Très bien.
Non, mais Gilbert, le football des nations est en train d'être emporté par le football business aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de matchs. À l'époque où l'équipe de France était un des rares matchs que tu pouvais voir gratuit, bien sûr, tout le monde regarde, et d'ailleurs il y a encore quand même de belles audiences sur l'équipe de France, mais je veux dire que à partir du moment où t'as tellement de choix, je suis désolé, tu vas pas regarder Grèce-France.
Après,
si le week-end d'après t'as déjà prévu de regarder Liverpool, le Paris Saint-Germain,
non, en fait,
ou
le problème, c'est qu'il faut pas comparer.
Ou le Bayern.
Comparaison n'est pas raison. Tu dois pas comparer ce que t'as vu en première ligue et ce que tu vas voir après. Quand tu vas regarder,
tu viens de me parler de la Côte d'Ivoire. À partir du moment où
tu vas regarder Qatar, Arabie Saoudite,
t'as un championnat domestique qui est pas attrayant. Mais par contre, t'as une sélection, voilà, c'est le pays, etc. C'est une fois de temps en temps, donc t'as envie de voir. C'est exactement ce qui se passe, nous, à l'inverse. On a tellement de matchs à voir entre la Ligue 1, entre la Première Ligue, entre la Ligue des Champions, ou même la Bundesliga ou la Liga. Mais comment après tu veux te poser sur un match tranquillement à regarder Finlande contre Italie? Mais c'est impossible, en fait. Si tu travailles pas sur le match, personne en France va regarder Italie-Ukraine si t'es pas italien ou si t'es pas ukrainien d'origine.
Moi aussi.
Après, ce qu'il faut noter quand même qu'en France, il y a une évolution, parce que moi, je suis de la génération, comme toi, qui viens à peu près le même âge, qui ne voyait pas la France en Coupe du Monde. Donc, il a appris à vivre la Coupe du Monde ou les grandes compétitions par procuration.
Oui.
Moi, je me souviens qu'avant 98, beaucoup de gens étaient pour le Brésil, par exemple. En France, c'était absolument pas évident d'être patriote, chauvin. Exactement. Maintenant, c'est quasiment un gros mot de dire que tu suis pas l'équipe de France. C'est quasiment un crime de lèse-majesté. Et alors qu'il y a une tradition en France pendant très longtemps de pas suivre vraiment le football de nation, et que les Bleus, ils avaient des résultats comme ça un peu erratiques. Et donc, ça avait pas de conséquences. Et maintenant, moi, ce qui me gêne un peu aussi dans le football de nation, à l'inverse, c'est le chauvinisme. C'est-à-dire que le patriotisme, c'est intéressant. C'est plus moi le rapport à l'enfance que je trouve intéressant et vraiment, vraiment, vraiment le sujet du football de nation. Mais quand ça devient un outil politique, nous, on n'est peut-être pas des spécialistes de foot, on n'est peut-être pas un grand pays de foot, quoi que ça se conteste. Par contre, on est spécialistes de l'instrumentalisation du football. Il n'y a pas une équipe plus instrumentalisée que l'équipe de France. On voit bien que n'importe quelle cause, on a encore parlé sur la fameuse commission dont on parlait tout à l'heure. On a encore parlé de Kylian Mbappé qui pourrait faire des messages contre l'homophobie, etc. au nom de l'équipe de France. Pour nous, on a un rapport très politique à l'équipe de France. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on rate
ce qui est l'essence du football des nations, qui est ce que tu viens de dire.
Excuse-moi, le rapport politique, il peut être positif. Je te donne un exemple très concret. On était en Algérie début septembre et on a lancé l'idée lors de cette émission.
Moi, je suis pas d'accord.
Un match France-Algérie.
Moi, je suis pas hyper d'accord.
Un match France-Algérie, il serait le de Algérie, ton point de vue, serait négatif.
Non, le Algérie-France. D'ailleurs,
faire un match. Je parle d'un Algérie-France.
Algérie-France.
Hein. Je parle d'un Algérie-France suite au match. Tu sais que les matchs doivent réciprocité en match amicaux. Oui. Aujourd'hui,
en l'occurrence, le fameux France-Algérie, d'abord, était prévu que ce soit un Algérie-France en 2001 et pas un France-Algérie. Et pour les questions de sécurité, ça a été.
Mais
ça a changé le sens du match.
Faisons tout pour organiser un Algérie-France.
Mais moi,
c'est compliqué entre les deux pays au niveau politique. Parfois, c'est compliqué dans les rapports sociaux au quotidien.
Mais le
sport doit rassembler. En Algérie-France, ça va rassembler.
Je suis d'accord avec toi que ça vienne des journalistes à la limite. Mais évidemment, nous, on en appelle aux politiques. Or, je ne crois pas que les politiques dans ce domaine-là, compte tenu en plus des relations entre la France et l'Algérie en ce moment, c'est très compliqué. Macron est très très mal vu en Algérie. Je crois pas que ce soit aux politiques. Je crois que le sport est un moment d'expression comme ça, des contradictions qui met une expression non politique. C'est-à-dire
débarrasser dans l'histoire du sport, tu as des événements qui ont aidé.
Oui, mais c'est pas parce que
la diplomatie du ping-pong.
Bien sûr, mais c'est pas parce que ça a aidé que c'est le
rapprochement entre la Chine et les États-Unis.
C'est pas parce que oui, mais bon, après il y a des conflits qui ont démarré à cause du football aussi. Et l'Union soviétique était très fière de son équipe, ou comme le Troisième Reich était très fière de son équipe. C'est-à-dire le football, le sport en lui-même est pas démocratique ou fasciste. Ça a pas de sens. Le football exprime des rapports. C'est comme un langage, comme l'art. C'est comme dire que la culture, c'est plutôt de droite ou de gauche. Ça n'a pas de sens, en fait. Et le football, c'est un peu comme l'amour. L'amour n'est pas de gauche ou de droite. C'est un rapport au monde. Et je crois que le football, et le sport de manière générale, mais le football en particulier, est un rapport au monde non politique. Et je crois qu'il peut le devenir, mais dans le cas précis, pourquoi moi je suis plutôt... Je l'applaudirais, je serais le premier à le regarder, mais un Algérie-France qui viendrait un peu comme ça, d'en haut, qu'on imposerait au nom de l'amitié entre les peuples. Non, je vois le piège à 3 km. C'est un peu comme, pour moi, c'est un peu l'équivalent, en toutes choses étant égales par ailleurs, de l'initiative de la LFP sur l'histoire des trucs arc-en-ciel, etc. Où
je signale qu'en rentrant d'Algérie il y a deux mois maintenant, on a posé la question à la ministre des Sports, que pensez-vous de l'organisation éventuelle d'un match Algérie-France? Elle a dit que c'était une excellente idée.
Bien sûr, mais elle va pas dire le contraire.
Parce qu'elle va dire, non, c'est pas une bonne idée. Elle pourrait te dire, écoutez, diplomatiquement, c'est un peu compliqué ces temps-ci, je pense pas que ce soit le moment. C'est pas du tout.
J'espère que l'Algérie se qualifiera à la Coupe du Monde 2026.
Voilà.
Ça serait bien si peut-être on tombait sur le même groupe ou sur un match.
Et en Algérie-France à Alger, toi, de ton point de vue algérien, qu'est-ce qu'on s'impose ?
Pour moi, en tant qu'Amin Azouz, ça ne me dérangerait pas. Au contraire, c'est l'équipe de France a des stars, etc., que nous connaissons et que nous serons ravis de recevoir chez nous. Ça reste des êtres humains comme nous, ce n'est pas des extraterrestres, et nous non plus, au sens figuré du terme. Par contre, tant que ça reste dans le cadre du sport, tant qu'il y aura le respect des hymnes nationaux, le respect des sportifs, que ça reste dans le cadre sportif, tant mieux. Je vous signe ça tout de suite. Maintenant, s'il y a des arrière-pensées, des préjugés, des cela, il faudrait une certaine sensibilisation pour aider à organiser ce match-là dans de bonnes conditions. Moi, par exemple. Quel que soit le pays, quels que soient les conflits, quel que soit ça, je suis pour le respect des hymnes nationaux. Chacun aime son pays, on doit respecter l'autre.
Excuse-moi, je ne doute pas qu'à Alger, si on demande au public de respecter les hymnes, je pense que personne ne va bouger. Je pense.
J'espère.
Oui,
le peuple algérien est un peuple très chaleureux, très respectueux. Il faudrait seulement que les conditions soient réunies. Sur le plan de la médiatisation, on peut en même temps organiser des débats.
On va pas nier les tensions entre les deux pays.
Ouais, c'est un bon exemple, l'histoire des hymnes, Gilbert. C'est, on va dire, ils vont pas siffler. Effectivement, c'est la question qu'on va se poser. Et tout de suite, ça va jeter une suspicion. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la logique du sport doit s'imposer. Mais pourquoi pas, dans ce cas-là, inventer une compétition?
Voilà.
Pourquoi pas organiser un rendez-vous où il y aura un trophée?
Même si c'est un peu
factice, ça déplace l'enjeu. Ça déplace sur qui est sûrement il faut absolument qu'on se réconcilie. C'est pas le football qui va régler le problème entre les relations entre la France et l'Algérie. Non, et il y en a des problèmes.
Non, mais ça peut
il y a
aider.
Des choses formidables. Il y a aussi une histoire qui est terrible entre la France et l'Algérie. L'histoire coliale est terrible.
Mais attention, nous.
Et donc des tensions. Et donc il y a des choses qu'il faut. Tu peux pas instrumentaliser.
Mais attention, en Algérie, les gens sensés, on n'a pas le complexe du colonisme.
Non, bien sûr.
Toi, t'as rien fait contre l'Algérie, ni lui, ni quelqu'un d'autre.
Bien sûr. Par contre, dans le cadre politique,
il faut respecter l'histoire. Et les faits d'histoire, il faut les assumer, que ce soit de la part de la France ou de l'Algérie. Et puis,
mais ce n'est pas au football de régler ça.
Non, ce n'est pas au football. Ça, c'est
un autre problème
politique.
Merci d'être venu nous voir. On est très content que notre venue en Algérie ait provoqué cet échange de compétences entre les médias algériens et français. Ça s'est fait au niveau des journalistes. Pourquoi pas au niveau du foot, Thibaut? Non mais réfléchis. Non, dans un instant, le reste de l'action du jour.
Inventons une compétition, créons une compétition. Un trophée franco-algérien.
Merci les gars. Les U17, comme promis, notamment au programme dans quelques instants. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Brigois.
23h49, encore 10 grosses minutes ensemble pour l'actu du jour dans l'affaire avec Kevin Diaz et avec Thibaut Leplat. Tiens, c'est marrant, Daniel n'est pas là, il n'a pas un euro dans la cagnotte ce soir.
Tu en as dit quelques-uns, hein, il n'a pas osé Toto. Hein.
Moi ?
Oui, oui.
J'ai dit quoi ?
Ouais, un truc, on s'emmerde, les matchs internationaux, on s'emmerde. Tu l'as dit plusieurs fois. Et ouais. Je note, parce que pour ma cagnotte, comme ça après j'ai ma prime.
Toi, me dit que ça passe.
Désolé. Écoutez le quiz de Génération After et vous verrez que Jérôme Thomas et Gilbert, on peut pas leur faire confiance. Ils se connaissent depuis trop longtemps.
Bon, les U17.
Il y a une incointance.
Vous avez suivi. Bon, en ce moment, on a la Coupe du Monde du 17. La France est en demi-finale. Elle va jouer d'ailleurs contre l'Ouzbékistan, équipe surprise. Mais il y a un imbroglio lié à la participation en équipe de France d'un jeune joueur qui, selon d'autres sélections, ne devrait pas être là. Ce joueur a joué pour le Niger dans une compétition U17 qui était qualificative pour le Mondial. Il s'appelle Yanis Issoufou. Donc il a fait un match avec les U17 du Niger dans cette phase de qualif. Et là, il est avec la France. Moi, quand j'entends ça, je me dis effectivement, ça semble tout à fait contraire au règlement. Hein, d'ailleurs, la fédération sénégalaise qui a porté avec les Burkinabés cette réclamation, à mon sens, a raison. La FIFA a plutôt rassuré la France en la matière. Donc, on attend la décision finale sur cette affaire. Mais enfin, si jamais il s'avère que la France se retrouve éliminée de la compétition pour une telle erreur, c'est quand même assez hallucinant, quoi.
Je me souviens plus exactement quelle est la législation pour les jeunes joueurs. Kevin, c'est jusqu'à 21 ans. Tu peux changer la nationalité.
Oui, mais là, on parle d'un match officiel, qualificatif.
Non, mais je crois que c'est tant que tu n'as pas joué avec l'équipe A.
Tu peux changer quand tu es en jeu.
Vous ne parlez pas de la même chose, les gars. Vous ne parlez pas de la même chose.
Non, mais là, j'ai lu le truc. C'est-à-dire qu'il a joué avec deux sélections sur la même compétition. C'est ça ?
Pas sur la même compétition, mais en tout cas, il a participé.
La même période.
Il a participé à une phase de qualif.
Ouais, c'est ça.
Pour la compétition finale avec une équipe. Et il est à la compétition finale avec une autre.
Non, mais ils ont quand même dû se renseigner quand même à la fédération avant de l'aligner. Parce qu'ils savaient qu'il avait joué avec le Niger.
Tu sais, parfois.
Vraisemblablement, en fait, le joueur ne l'a pas dit. Ah. En fait, la fédération française n'était pas informée. Enfin, bon. Voilà la situation.
Non, mais le club, il n'a pas informé la fédération qu'il avait déjà joué avec le Niger. Parce que normalement, le club le sait quand même qu'il est parti jouer avec une sélection.
Eh ben, écoute, alors est-ce que c'est... Bon, on va suivre cette affaire, parce que pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas plus d'informations. Mais est-ce que la responsabilité vient 100% du joueur? Ou peut-être qui... C'est vrai que c'est un jeune gars, U17, forcément, c'est un ado. Peut-être que lui, peut-être qu'il... Voilà, ou... Enfin, il sait bien pour qui il a joué, c'est pas ça le problème.
Mais peut-être qu'il ne sait pas qu'il n'avait pas le droit de
signaler. Ouais. Alors, effectivement, son club, les deux fédérations, qu'en est-il? On va suivre quand même cette affaire de près, parce que si on se retrouve avec une équipe de France, même de jeunes, qui se fait sortir sur tapis vert d'une compétition, enfin d'un championnat du monde sur tapis vert, ce serait quand même assez incroyable.
Ça peut arriver. Hein.
Ça paraîtrait quand même étrange.
Ça ne nécessite pas plus de débat. Non, on n'a pas plus d'infos, mais je voulais quand même vous relayer ça ce soir. Sinon, dans l'actu du jour, on a encore pas mal de petites choses que je voulais partager avec vous, notamment une nouvelle interdiction de stade pour les supporters bordelais, nouvelle interdiction de déplacement pour les supporters bordelais. Vous savez qu'il y a le match Paris FC Bordeaux qui arrive dans 48 heures. Et ce matin, interdiction de déplacement pour les supporters bordelais à Paris. On avait Pierre Ferracci il y a quelques jours, rappelez-vous, qui lui disait qu'il comptait sur ce match pour faire une belle opération, puisque c'est gratuit, l'entrée est gratuite au Paris FC. Donc incompréhension à Bordeaux sur cette interdiction.
Sachant que l'année dernière, j'ai été voir Paris FC Bordeaux. Je crois que c'était le premier ou le deuxième match du championnat et il y avait les supporters bordelais.
Il y a eu des problèmes?
Je ne crois pas. Je
ne
me rappelle pas, mais je ne crois pas.
À signaler également, Fabrice Hawkins nous informe que le poste de directeur sportif de l'OL pourrait être occupé dans les jours qui viennent par David Friot, qui aujourd'hui a officiellement quitté l'Olympique de Marseille.
C'est extraordinaire cette histoire. Quoi.
Et donc, vous savez que John Textor...
Du coup, à Lyon, ils prennent tous les Marseillais ?
Est en train de réorganiser son équipe dirigeante. Laurent Prudhomme, ancien patron de l'équipe, du journal L'Équipe, a été nommé directeur général il y a quelques jours maintenant. Et donc, on parle de Friot, qui sera en pole position donc pour le poste de directeur sportif à Lyon.
Ça fait quand même quelques anciens Marseillais, du coup, à Lyon.
Les autres.
Exactement. Donc, à suivre, à confirmer. Quand ce sera confirmé, ça mérite
pas de... Ah oui, il y avait M. Lejeune, qui n'est pas dans un poste immédiatement visible.
Mais quand même.
Oui, bien sûr. Bah, oui, c'est...
On voulait parler deux minutes de Rui Pinto, on aura moins. Mais on va le faire quand même rapidement.
On va le mentionner.
Rui Pinto, lanceur d'alerte portugais, a été condamné à Paris il y a quelques heures maintenant. C'est lui le lanceur d'alerte à l'origine des Football Leaks. Il a été condamné à de la prison
avec sursis
quelques mois.
Une offre.
Il a accepté ça. Il a aussi été condamné au Portugal à de la prison avec sursis. En fait, ça pose un problème. Un peu d'ordre éthique parce que il a fait des révélations, c'est notamment grâce au Football X qu'on a découvert la fameuse cellule de recrutement du centre de formation du PSG soupçonné de fichage ethnique, rappelez-vous de cette affaire. Mais il a obtenu ces infos
et les montages financiers aussi le dans les paradis fiscaux, les joueurs qui payaient pas d'impôts, etc. Enfin,
exactement.
Le fisc a récupéré.
Mais il a obtenu ces infos en hackant. C'est un hacker, cet homme-là. Donc est-ce que un hacker doit être condamné, quelles que soient les révélations qu'il peut faire par ses piratages, ou est-ce que il faut dire que cet homme, ce lanceur d'alerte,
il a pas réclamé le statut de lanceur d'alerte. Ça veut dire qu'il a accepté, parce que je vais pas rentrer dans le détail, mais dans l'affaire, il y a aussi lui, il a eu une tentative d'extorsion. Parce que bon, lui, il a hésité. Manifestement, il a hésité à que faire de cette information. Et donc, les décisions de justice sont à l'image de ce cas-là, c'est-à-dire qu'il est condamné à pas aller en prison. Il est condamné. Là, c'était une procédure qui permet un peu à l'américaine d'aller voir le procureur et de négocier avec lui. Il a accepté 6 mois avec sursis. Parce qu'effectivement, le procédé est pas légal, mais l'intérêt public des révélations qui ont été faites est évident. D'ailleurs, le parquet national financier continue à enquêter sur les bases des révélations des Football Leaks, de la quantité astronomique de données qui ont été révélées par ces fuites-là. Cristiano Ronaldo, Léo Messi, là Xavi Alonso, mais Shakira, Piqué, tous ces gens-là ont été condamnés à verser des amendes importantes au fisc, à payer ce qu'ils devaient au fisc, grâce aussi à ces révélations-là. Donc c'est le problème de lanceur d'alerte.
Dernière petite info importante quand même, parce qu'on suit toujours ça de près, un des supporters marseillais qui était abonné au Vélodrome depuis 10 ans, qui était responsable des lancements de jets, enfin de projectiles de cailloux sur les bus lors du fameux match Marseille-Lyon, a aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille pris 4 mois de prison avec sursis et interdiction de ça pendant 3 ans. Voilà. Ce qui s'est passé aujourd'hui pour ce jeune marseillais. Survivor.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Et oui, c'est parti pour le deuxième Survivor de la saison. 19 formes de l'After sur la ligne de départ. Beaucoup de monde joue Nice qui reçoit Toulouse. Courbis, Villas, Tours, Jamin, Dorian, Diaz, Bribois, Gautreau, Loussaïe, Vexio. On en a deux qui jouent Lorient, qui reçoit Metz, Thibaut Leplat, comme par hasard, et Jimmy Brown. On en a deux qui jouent le PSG qui reçoit Monaco, Acherchour, Latrubers, Max du Standard. On en a deux qui jouent Marseille qui va à Strasbourg, Jérôme Thomas, Daniel Riolo, les Fourbes. Et puis Thibaut Jeungrand joue Lens qui va à Clermont. Voilà, réponse lundi, on saura qui survit lundi. Et puis, vous savez que dans Génération After, depuis un moment, on vous parle de l'expérience RMC, Arsenal-Lens cette fois. Qui va aller assister à Arsenal-Lens tout ça offert par RMC, on va appeler un des candidats, on va voir s'il répond, j'espère pour lui, parce que s'il ne répond pas, il faudra qu'il passe son tour.
Allô.
Allô Philippe.
Ouais.
Philippe, c'est l'After.
Ah super.
Tu sais pourquoi je t'appelle?
Bah ouais, c'est toi qui m'avais appelé tout à l'heure.
Alors, oui, pour voir
magnifique.
Si éventuellement t'étais
magnifique.
Là.
Il Philippe, a cramé tous les
je t'annonce que tu as gagné pour partir à Londres pour le match Arsenal-Lens.
C'est génial.
Voilà.
C'est dingue.
Bah voilà, c'est toi, c'est tombé sur toi.
Quel acteur?
Non mais alors, en fait, on va donner les coulisses. Max appelle
évidemment
les finalistes en lui disant attention, il est possible que ce soit toi. Et là, c'est tombé sur Philippe. Alors Philippe, voyage à Londres, rencontre avec l'équipe des RMC, et puis place pour le match, quoi. Bravo Philippe.
Je suis comme un mec, ça fait 25 ans là, qu'on y est allé et je rêvais d'y retourner là.
Ah, t'étais du fameux match Arsenal-Lens de l'époque?
Non, je regardais à la télé. Je l'ai regardé à la télé, mais je rêvais d'y aller.
Et ben voilà, tu vas pouvoir découvrir cette belle ambiance. Bravo Philippe.
Ah, merci les gars. Merci RMC.
Bah écoute, ça nous fait plaisir, c'est cadeau de l'after. Et puis il y aura des prochaines expériences RMC dans les mois qui viennent. Ça marche.
Ah, je vais pas endormir la nuit là. Merci.